c'est clair. Voilà, il y en a, il a dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? J'avais dit que j'avais utilisé le passage où Jésus... C'est loin. Grandissait en stature et en sagesse. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Bon, c'est très bien. Alors, dans quelques jours, vos copains, vos copines vont vous parler d'un événement de fin novembre. De quoi? C'est quoi? Ben, le 31, oui. Fin octobre, pardon. Excusez-moi. Merci d'être attentif. Voilà, fin octobre, le 31. Le 31. C'est leur fête officielle, c'est le 31. C'est le jour de la fête des morts. Vous savez ça? Le 1er novembre étant la Toussaint, la fête de tous les saints, le 31 est la fête des morts, et Halloween, c'est le premier jour, c'est la célébration. Vous savez de quoi? C'est pas des bonbons, hein? Halloween, c'est quoi alors? Vous savez? C'est quoi? On se déguise? Non, c'est pas une fête de déguisement en fait. C'est une fête cachée, c'est la fête du diable. Vous savez ça? C'est la fête du diable. Ouais. C'est le premier jour du calendrier satanique. Et ce jour-là, dans le monde, vous savez quelque chose? On fait des sacrifices humains, on offre des enfants au diable. On extermine des enfants pour que le diable soit content. Mais on a célébré ça en l'offrant avec des bonbons. C'est tellement plus gentil. Hein? Mais on ne vous raconte pas tout ce qu'il y a derrière. On dit, oh, c'est juste une fête de déguisement. C'est sympa, tu vas manger des bonbons. Comme ça, les dentistes seront contents. Tu viendras les voir plus tard. Jésus ne nous demande pas de célébrer la fête des morts. Ni la fête de Satan. Manger des bonbons, il ne nous en interdit pas si c'est avec modération et avec l'accord des parents. Mais Jésus, il a dit une chose. Dans Jean chapitre 10, c'est aux enfants que je parle, hein, et aux adultes aussi. Je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie, pas la mort. Il est venu pour que vous ayez la vie. Et pour ça, il n'a pas besoin que vous vous déguisiez, que vous vous cachiez derrière des masques, que vous preniez un balai. Non. Lui, il est venu à votre place mourir sur la croix. Hein? Il a dit qu'il était le bon berger. Celui qui ne nous trompe pas, celui qui n'essaye pas de nous avoir avec des gâteries, avec des écrans de fumée. Vous savez, les publicités, ah, oh, ça c'est beau. Alors moi, ce matin, je ne vais pas être long, mais je voudrais juste vous avertir que quand vos copains, vos copines, ils veulent vous investir dans la fête d'Halloween, vous pouvez leur répondre gentiment. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui ne me promet pas des bonbons, mais quelqu'un qui me donne la vie. Quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Pas quelqu'un de faux, pas quelqu'un de tricheur, pas quelqu'un qui essaye de me rouler dans la farine. Alors merci de me laisser tranquille. Et demandez des bonbons à vos parents, je suis sûr qu'ils seront contents de vous en donner. Si vous n'avez pas de diabète. D'accord? Donc, rappelez-vous une chose, Halloween, c'est la fête du diable. Et la fête de Jésus, elle arrive bientôt, hein, c'est le 25 décembre. D'accord? Donc si vous voulez grandir en stature et en sagesse, essayez de savoir pourquoi on vous fait faire les choses. Et Dieu va vous bénir, va vous aider. Et donc je vous invite pendant le restant de vos vacances, si vous avez une Bible, un évangile à lire, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, il est marqué « Je suis la porte de la bergerie, celui qui rentre sera bien. » D'accord? Donc méditation, je vérifierai donc est-ce que quelqu'un qui a de la mémoire se souvienne que j'ai dit ça dans un mois. D'accord? Voilà. C'était le dernier dimanche du mois, donc en principe vous aviez droit à un petit message, et là ça tombait bien avec cette fête. Si nous qui sommes chrétiens, nous avons donc vu ces trois dimanches, ou les trois derniers dimanches en tout cas, cet aspect que nous pouvons être source de vie ou source de mort, source d'amitié ou source de conflit. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait une nouvelle espérance. Notre espérance doit être sans cesse renouvelée. Vous savez que quelqu'un a dit, si vous voulez enlever l'espoir aux gens, ou si vous voulez maîtriser un peuple, vous leur enlevez l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, hein, et c'est Jacques Dutronc qui chantait ça dans les années 70, il n'y a plus d'espoir, tout est noir. Dans Matthieu chapitre 7, le texte avec lequel j'aimerais méditer avec vous ce matin, Matthieu chapitre 7, j'aime beaucoup ce sermon dans la montagne 5, 6, 7, parce que c'est là qu'on peut puiser toute la sagesse que Dieu a apportée. Hein, et dans, vous remarquerez combien de fois dans Matthieu 5, 6, 7, il est dit, on vous a dit, ça c'est la tradition, mais moi je vous dis. Et il faut dépasser ça. Donc Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout le monde peut suivre ? Tout. On peut le lire ensemble. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et c'est intéressant parce que le texte là encore, comme tout à l'heure, il ne dit pas faites-le si vous le voulez. Si vous en avez envie, si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes levé du bon pied, si vous avez bien dormi, s'il fait soleil dehors, si vous avez eu des cadeaux. Il dit quoi là ? Il commence par tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le aussi aux autres. C'est pas tout ce que les gens veulent que vous fassiez pour eux, mais tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est-à-dire que si vous êtes dans la peine, vous aimeriez qu'on vous console. Faites-le aux autres aussi. Si vous avez besoin d'être exhorté, vous aimeriez qu'on vous exhorte. Si vous voyez, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, combien de fois on fait des choses, on dit oh, j'aurais tellement aimé qu'on fasse ça pour moi. Mais imaginez si vous pouvez être vous le détonateur pour un frère, pour une sœur, de lui accorder ce qui est nécessaire. Il y a deux rabbins qui discutaient à l'époque de Jésus. Et il y a un des rabbins qui a dit, ne fais pas à autrui ce que tu détesterais qu'on te fasse. Ça, c'est toute la loi. Le reste n'est qu'un commentaire. Ça, c'est toute la loi. La loi résumée, Jésus l'a résumée, la loi, il a dit quoi ? Il a dit, la loi, c'est d'aimer Dieu. Et son prochain. Ça, c'est le résumé de la loi. Et là, il dit quoi ? Ne fais pas à autrui ce que tu détesteras qu'on te fasse. C'est toute la loi. Le reste, c'est du commentaire. Si on cherche, mes amis, à nous faire du bien les uns les autres, on ne va pas se faire du mal. Ne fais pas le mal qui à toi te fait mal. Dans Matthieu 22, 36, justement, ce rappel, Matthieu 22, 36. Tournez les pages. Ce matin, ça ne sera pas à l'écran. On cherche toujours à savoir ce qu'il y a de plus grand. Matthieu 22, tout là ? Tout le monde là ? Matthieu, c'est pas trop compliqué à trouver, les jeunes. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la base minimale, c'est ce qu'on appelle dans le service public le service minimum. Vous savez, quand on vous annonce le service minimum à la SNCF, ou quand on vous annonce le service minimum dans certains endroits, c'est-à-dire qu'on fait vraiment ce qui est essentiel. On va faire rouler les trains. On va faire rouler les trains. C'est le service minimum. Il n'y en aura pas autant que d'habitude. Mais imaginons, maintenant un instant, arrêtons-nous, point, arrêt sur image. On ne peut rien faire d'autre. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage de faire quoi que ce soit. Ça ne vous arrive pas, le matin, vous vous levez, vous dites... Pff. Service minimum, que d'aimer mon prochain. Que d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Ça va changer ma journée, non? Non? Aimer Dieu, chercher à savoir ce que Dieu est, ce que Dieu veut. Notre sœur l'a fait en un week-end, mais elle a prié pour ça avant. Il est venu, Jésus est venu pour nous enseigner non seulement ce que nous devons savoir et croire, mais ce que nous devons faire. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Celui qui connaît la vérité, qui ne la pratique pas, et on en est souvent un peu là. Nous devons faire pour notre prochain ce que nous-mêmes nous reconnaissons être parfait et raisonnable. Nous devons, dans nos relations avec les hommes, nous supporter et supporter les, quelles que soient les circonstances et agir en conséquence. Frères et sœurs, ce verset est un verset important, n'est-ce pas? Un verset que nous travaillons depuis quelque temps, parce que nous réalisons que la réalité du message de l'Évangile, quel est-il? Qu'il nous envoie au ciel par la navette spatiale, spéciale Jésus. Hop! Imaginez à chaque fois qu'un non-chrétien vient à Christ, il a sa place dans la navette. Maintenant, avant d'aller jusqu'à la navette, il va passer un certain temps sur la terre où là, il va exprimer aux autres le changement de la réalité de sa vie. Et la première réalité qu'il va changer, c'est le fait qu'il a été libéré de ses chaînes. F-A-I-R-E, hein, pas le faire à repasser. Se base sur l'amour de Dieu. Le texte français a oublié l'original. L'original commence ainsi donc. Ainsi donc. C'est un lien. Vous savez, l'apôtre Paul, plus souvent, lui, dans ses textes, il fait souvent l'exposé, puis il dit « donc ». Mais Jésus, ou au moins les traducteurs, n'ont pas traduit. Or là, le texte, il dit « donc ». Donc, puisque vous le savez, puisque maintenant vous savez ce que Dieu a fait pour vous, donc, ainsi, vous devriez faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour vous. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui lui demandent? Si donc, puisque d'origine vous êtes mauvais, mais maintenant vous offrez des bonnes choses, est-ce que l'amour de Dieu a changé quelque chose dans notre vie? Ou est-ce que l'amour de Dieu nous permet à nous égoïstement d'être sûrs que nous allons au ciel? Vous imaginez, quand on marche dans la rue, quand on regarde les gens qui ne sont pas sauvés, quand on dit « Ah, vous allez tous brûler en enfer !» Mais pas moi. C'est égoïste, ça. C'est non-assistance à personne en danger. J'étais comme vous, j'allais sur le même chemin. Et Dieu est venu me chercher. J'ai découvert que Jésus est un Dieu d'amour, un Dieu qui est venu chercher les pécheurs, ceux qui sont malades. Si donc, puisque, en conséquence, alors, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le aux autres. Imaginons-nous en train de dire du mal de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on aimerait qu'on fasse ça pour nous ? Oui, bien sûr, on aime ça, n'est-ce pas ? Non. Est-ce que ne pas prévenir quelqu'un qu'il va être en retard, qu'il va avoir un accident ? On aimerait qu'on nous le fasse. Ah bah si j'avais su. Il pleut autant sur les méchants que sur les bons, mes amis. Le soleil brille autant pour les méchants aujourd'hui que sur les bons. La maladie touche autant le corps des méchants que ceux des bons. La bonté de Dieu se manifeste par le fait qu'il donne à ses enfants, à ses disciples, la capacité de vivre. Nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais la première chose que Dieu nous donne le pouvoir de faire, c'est de faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres. Vous savez, les Restos du Cœur, c'est fantastique parce que on le chante, hein, on a chanté des chansons pour le monde entier, en solidarité pour les gens, et grâce aux concerts, on ramasse de l'argent et on envoie cet argent. Mais on a des voisins à côté de nous, on a des frères et sœurs à côté de nous qui manquent du minimum, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la maladie, qui sont dans le deuil. Et on n'est pas capable pour eux. Pour eux, là, qui sont là, à notre portée, on change de trottoir quand on les voit, pour pas avoir à discuter avec eux. On se demande les uns aux autres, tu sais comment il va, le frère ? Ou la sœur ? Ah, je savais pas qu'on lui avait coupé sa ligne de téléphone. C'est bizarre, tu peux l'appeler. Ah oui, mais toi, t'as de meilleurs contacts avec lui que moi. L'amour des autres. L'amour des autres, mes amis. Je veux dire, une phrase lourde de conséquences ne se crée pas sans l'amour de Dieu. L'amour des autres. L'amour authentique d'autrui puise son exemple dans l'amour de Dieu. Je vous ai fait ces choses afin que vous les fassiez aussi. Jésus a servi d'exemple, de modèle. Il ne nous demande pas de retourner à la croix, mes amis. Il l'a fait, il a dit une fois pour toutes. Par contre, prendre soin de nos frères et sœurs, il l'a fait. Prendre soin des disciples, prendre soin des foules, même de ceux qui ne le connaissaient pas. Un serviteur de Dieu a dit, aimer les autres sans être lié à l'amour de Dieu, c'est faire marcher une voiture sans essence. Aimer les autres sans être lié à l'amour de Dieu, c'est faire marcher une voiture sans essence. C'est tenter de faire décoller un avion en le poussant. Quelles ont été les marques de l'amour de Dieu ? L'histoire commence avec l'amour de Dieu. Dans son histoire, il nous a créés. Et regardez bien maintenant, à l'école, on veut enlever Dieu. À l'origine, il n'y avait pas Dieu. Il y avait un œuf. Et l'œuf devait venir d'une poule. Mais on ne sait pas si c'était la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. À l'origine, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité commence par un Dieu d'amour qui crée. Un Dieu qui crée tout ce dont l'homme a besoin. Il crée la terre, il sépare les eaux du haut avec les eaux d'en bas, il crée le soleil, la lune, il crée les arbres, les poissons, les oiseaux. Et là, une fois qu'il a créé le tout, il dit à l'homme, voilà. C'est pas de l'amour ? C'est de la méchanceté, ça ? Vous savez, les agences de publicité qui vous vendent des choses extraordinaires. Vous savez, les voitures, pour ceux qui achètent des voitures, vous savez. Alors, Car c'est marqué, vous pouvez acquérir telle voiture à partir de... L'autre jour, j'ai regardé, c'était intéressant, parce qu'ils annonçaient une voiture, par exemple, à 7 500 €. Super, j'achète. Sauf que c'est pas la voiture qui est sur l'écran, là. En bas, en tout petit, c'est marqué, cette voiture, avec les options, coûte 19 532 €. Donc, vous allez chercher, vous venez avec la photo de la voiture, vous dites, 7 500 €, j'achète. Ah oui, mais monsieur, c'est pas la même. Les glaces, faudra les descendre à la main. Les pédales, si vous en voulez, faudra payer. Pas vrai ? Vous n'êtes pas fait avoir comme ça ? L'amour de Dieu. La suite est plus triste. L'homme rejette le bien défini par Dieu et choisit la rébellion. Dieu a-t-il cessé d'aimer ? Au contraire, il a mis l'homme avec tout ce qu'il avait besoin. Alors que l'homme devient misérable, méchant, égoïste, Dieu choisit d'aimer. La première épître de Jean au chapitre 4, verset 19, dit que le premier qui nous a aimés, c'est Dieu. Nous ne l'avons pas aimé le premier. Il nous a aimés. Dans Romains chapitre 5, verset 8, un verset que vous connaissez, il est dit « Dieu prouve ». Son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu regarde les êtres qui devaient briller mieux que des halogènes et qui ne brillent pas plus qu'une allumette. Et Dieu dit, je vous aime. Dieu regarde des êtres qui devaient refléter sa gloire et qui sont pleins de boue. Et Dieu dit, je vous aime. Je vous aime. Comment ? Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils comme victoire expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. Christ a payé le prix fort de nos fautes. Il nous accorde sa justice, sa sainteté. Il y a un rachat, de dette que nos péchés ont engendré devant un Dieu trois fois saint. Il est difficile de comprendre les dimensions de l'amour de Dieu. Paul priait à l'église d'Éphèse qui avait des difficultés pour qu'elle ait une illumination à ce sujet. Tant qu'il est difficile de percevoir cet amour. Les difficultés présentes font que l'on pense parfois que Dieu est tellement loin. Notre vie terrestre est courte. Quelqu'un avait utilisé cette image récemment, hein, en disant que, en fait, quand on vient à Christ, on est juste sous la lumière. Et puis, dans notre vie, on s'écarte un peu de la lumière et d'un seul coup on se dit « Tiens, c'est bizarre, j'ai du mal à lire. » Et parfois notre vie c'est un peu ça. Hein. C'est écrit quoi là ? Je lis plus trop, j'entends plus trop. C'est pas qu'on a développé de la myopie et puis nos oreilles n'entendent plus, c'est que finalement on l'a pris un peu à l'écart. Mais quand on se revient vers la lumière, mes amis, alors, il se passe des choses. Jean 15, vous connaissez Jean 15 ? Verset 12, on peut le lire ? Jean 15. C'est un peu des rappels ce que je fais ce matin, mes amis, mais on en a tellement besoin. On en a tellement besoin, en tant que communauté. Et j'ai tellement besoin de m'approprier ces textes. Moi, comme enfant de Dieu, avant d'être serviteur. Il est souligné dans votre Bible, celui-là ? Jean 15, 12. Qu'est-ce qui est dit dedans ? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh, mes amis, comment est-ce qu'on peut oublier ? C'est ici mon... Quoi ? Ma suggestion. Vous savez, dans notre monde moderne, on ne veut pas imposer. Alors, vous écoutez beaucoup de prédicateurs et j'utilise un peu ça de temps en temps aussi. Je l'avoue, je fais un peu de politique dans ce sens. Pas de la vraie. Hein. Et quand on ne veut pas dire à quelqu'un « tu devrais » ou « il faut », on lui dit, on brosse un peu, tout gentiment, on dit « alors, je te suggère, hein, je t'invite ». Enfin, si tu voulais bien, ça serait bien que tu... Oui, hein, tu plus tard, d'accord. Là, le texte, il est clair. C'est Jésus qui parle encore une fois, il dit, voilà mon commandement. Oui, chef, je vais aimer, chef. Parce que tu m'as donné l'amour. Parce que pour que tu me donnes cet amour, tu as souffert, n'est-ce pas? Parce que j'étais tellement moqueur, tellement rebelle. J'avais aucun moyen de m'approcher de toi. Ma dette était tellement grosse que je ne pouvais pas la payer. Voyez, mes amis. C'est intéressant parce qu'il y a des versets comme ça, on les souligne pas trop dans notre Bible parce qu'on se dit « Oula, celui-là, il est raide. » Éphésiens chapitre 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, qui a pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyez donc les imitateurs. Devenez, hein, dans la langue originale, c'est tout en marchant, tout en devenant. C'est un processus. Alors, je ne parle pas, messieurs, de Matthieu, d'Éphésiens 5, 25, qui dit quoi? Qui dit, Marie, maudissez, râlez, chacun contre vos femmes. C'est marqué quoi? Marie, j'entends pas. C'est bizarre, c'est les femmes qui le lisent. Là, il y a une erreur de communication, là. Je recommence. Messieurs, qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Messieurs, êtes-vous là? Marie, aimez chacun votre femme. Comment? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ha! Vous l'aviez lu avant? Ouh. Ça se complique, hein? Ah bah si j'avais su ça avant, hein? Ah bah le maire, il l'a pas dit, hein? Il a dit, femme, soyez soumises à vos maris, celui-là on l'aime, hein? Ouah, pire. Déjà, on sort le texte du contexte. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Dieu nous a montré le moyen d'aimer, mais on ne sait pas le faire. Ah oui, mais il a dit ça. Ouais, mais il a fait ça. Ouais, mais il pense ça. Moi, je connais, hein. Je suis sûr qu'il pense ça, lui. Alors, c'est même pas la peine que je lui parle. Si les maris sont invités à aimer, c'est probablement qu'ils ont plus naturellement tendance à ne pas aimer. Pourquoi est-ce que Dieu est obligé de nous rappeler les choses? Parce que nous sommes oublieux. C'est vrai qu'Alzheimer, ça commence très tôt. J'ai oublié. L'amour s'inspire de l'amour de Dieu. Faire la liste des manifestations de sa bonté est impressionnant, non, quand on s'assoit. Dans notre vie spirituelle, dans notre parcours avec lui, qu'est-ce qu'on peut noter? Faites la liste de sa bonté. L'amour de Dieu est un modèle, mais aussi une puissance. Dans 1 Jean 4, 7, 8, il est dit ceci. Bien-aimé. Hein, j'aime beaucoup la façon dont Jean il écrit. C'est à la fin de sa vie. C'est un vieillard. Et il est moins agressif qu'un jeune pasteur. ou un pasteur dans la force de l'âge. Et elle dit ceci, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Wow. Là aussi, c'est un texte qui nous gêne, qu'on n'a certainement pas souligné. 1 Jean 4, c'est la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7-8. Comment est-ce que nous fréquentons Jésus-Christ? Dans la prière, la confession, la lecture de sa parole, dans le fait de chercher et de frapper à sa porte. Il est la porte, il l'a dit dans Jean 10. De lui demander, Seigneur, aide-moi. Seigneur, enlève de moi ces pensées mauvaises. Seigneur, permets que ces barrières que le diable a dressées, nous puissions les abattre. Notre Père s'inspire de ce que nous aimerions. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Ce que nous aimerions. Cette seconde remarque est encore plus importante que la première. C'est comme lorsque je demande aux enfants ce qu'ils souhaitent pour Noël. J'ai une de mes filles qui baisse la tête, fait oulala. Oh, ils en aimeraient des choses. Mais j'ai pas le budget de la Banque de France. Il y a des choses qu'on aimerait, n'est-ce pas? Et bien là, le texte, il va loin, parce qu'il dit, tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le. Et il y a certainement des choses qu'on aimerait bien que les autres gens nous accordent. Quant à l'attitude appropriée de la compassion, de l'encouragement, des paroles pour nous rassurer, de la disponibilité, du respect, de l'encouragement, la vérité avec amour, admettre quand on a tort, savoir aussi donner un coup de main, appeler, ou ce qui devient plus difficile, écrire un mot. Être disponible. Mes amis. Est-ce qu'on pourrait, si on avait le temps, on s'arrêterait un instant, on se disait, et on écrirait chacun sur une feuille de papier. Qu'est-ce qu'on aimerait que les autres nous fassent? Ah, l'Église, vous savez, on est prêt à réfléchir sur comment l'Église serait mieux si les autres étaient mieux. Non? Ah, si un tel faisait ça mieux, et si le truc était mieux, et puis si. Mais si on écrivait, comment est-ce que je peux changer pour que l'Église soit mieux? Chacun. Waouh! Alors d'un seul coup. La Bible nous montre les limites d'aimer dans ce qui est juste et honorable, dans le fait de prendre soin. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Mes amis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes de la même famille. Wow. C'est des textes qui me transportent, parce que je dis, mais notre œuvre chrétienne serait tellement mieux si moi le premier je le faisais. Et si chacun de nous on faisait notre part. Si chacun de nous cet amour que Dieu nous a donné, nous sachions le libérer. Nous avons des ressources spirituelles, matérielles. Des fois, on dit qu'elles sont limitées. Ou en tout cas, on les limite. Mais imaginons les mettre à disposition des autres. Je n'ai pas grand-chose à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est peut-être notre appel. Notre faire est une manifestation des actes, de la manifestation de l'amour par des actes. Je m'excuse parce que j'avais vraiment l'intention de t'appeler. Si. Crois-moi, si. Non mais, te moque. Hein? Oui, mais je t'ai pas appelé. Oui, d'accord. Notre amour reste des intentions. Mes amis, si on doit se lever, on ne doit pas se lever plus tard. Et on ne va pas se lever plus tard. Si on doit aller travailler, on ne va pas avoir l'intention d'aller travailler. Et 3 jours ou 4 jours plus tard, de venir sur notre lieu de travail et d'arriver à l'heure qu'on veut, de dire « Bonjour !» Ben écoutez, les autres jours, j'avais eu l'intention de venir, mais... Enfin, si, j'y pensais, je pensais très fort à vous. Oui, si. Ah, si, quand je mangeais ma glace, etc. Je regardais mon match. Et c'est impressionnant que ça, on ne peut pas le faire pour un frère ou une sœur. Que ceux qui sont, que pour qui Dieu a payé un tellement gros prix, je ne puisse pas en prendre soin plus que ça. Vous aussi, faites-le. Vous aussi, faites-le. Le verbe « faire » est utilisé 579 fois dans le Nouveau Testament. Faites-le, faites-le, faites-le. Depuis 68, moi je suis là, ce qu'on appelle la génération 68, c'est « ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, n'admets pas, n'écoute pas, ne te soumets pas. » Je suis la génération « ne pas ». Et la génération « ne pas » elle a produit des enfants de « ne pas ». Et les enfants « ne pas », ils disent « jamais, jamais, jamais ». Vous avez vu l'écart qu'on a mis là ? Et Dieu, il continue de dire « Hé, je vous aime. Hé, je suis là. Je me tiens à la porte et je frappe. » 579 fois dans le Nouveau Testament. Waouh ! Seigneur, que mon amour ne soit pas juste une intention. On ne fait pas dans sa tête. On fait dans la réalité. On ne fait pas dans l'intention, mais dans la concrétisation. On ne fait pas sans faire. Un jour, alors qu'il essayait péniblement d'arracher, c'est il y a plusieurs siècles, il y a 2-3 siècles, un homme essayait d'arracher de sa terre de quoi vivre, c'était un cultivateur, et il a entendu un cri d'agonie d'un garçon. Il courut vers la source du bruit, trouva un enfant à moitié pris dans la boue en train de s'enfoncer dans de la vase, en train de couler. Alors ce monsieur a fait tous les efforts et a réussi à sortir l'enfant pour qu'il ne meure pas. Le lendemain, un carrosse s'est présenté devant la ferme du fermier. Un noble en vêtements élégants est descendu et s'adresse au fermier. Il dit « Je suis le père de cet enfant que vous avez sauvé et je viens vous payer. » Le fermier a dit « Non, je ne peux rien accepter de paiement pour ce que j'ai fait. » Alors le fils du fermier est sorti à l'instant de la maison. Le noble lui demanda si c'était bien son fils. Fleming répondit « Oui, c'est effectivement mon fils. » Alors, le monsieur de dire « Voilà ce que je vous propose. » Voilà ce que je vous propose. Voulez-vous me confier votre enfant pour que je lui donne une bonne éducation? S'il ressemble à vous, il grandira pour devenir quelqu'un qui vous rendra fier. C'est ce qui est arrivé. Le fils a obtenu un diplôme de médecine et est devenu célèbre dans le monde entier sous le nom de Sir Alexandre Fleming. Il a découvert la pénicilline. Plusieurs années plus tard, le fils du gentleman, de cet homme riche, est tombé, lui, gravement malade d'une pneumonie. Qui l'a sauvé? Sir Alexandre Fleming. Quand nous offrons l'amour à ceux qui nous entourent, il y a des conséquences énormes. Quand nous offrons la haine, il y a des conséquences immédiates. L'amour est productif et mesurable. Et Dieu prouve. Notre amour se manifeste par des actes. Et enfin, je termine avec « Notre fer coûtera toujours ». Au verset 12, il est marqué « Faites ces choses pour eux. » Pour eux. Il n'existe pas d'acte qui ne coûte rien. Aimer ne saurait être pleinement gratuit. Le temps que je passe à agir en bien n'est pas passé en me pomponnant ou en lisant mes romans. Le temps passé auprès d'une autre personne n'est pas passé devant un miroir, une manucure ou autre chose. Je fais pour eux ce que je ne peux plus faire pour moi. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé chacun de nous dans cette salle. Qu'il a donné son Fils unique pour mourir à ma place. Pour sourire, pour souffrir. Si on revisitait le verset dans notre 21e siècle, on écrirait certainement « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé des fleurs, un télégramme, un fax, un email, un SMS. Il n'a pas donné de carte de vœux. Il n'a pas exprimé son bon courage pour la suite. Mais il a quitté son ciel de gloire. Il s'est vidé d'une partie de ses attributs. Il a définitivement pris notre forme humaine. Il a subi les moqueries, les rejets, les insultes. Et il est mort à la croix. Pendant un instant, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est devenu péché, malédiction pour nous. Pendant un instant, le Père s'est détourné du Fils et la communion éternelle qui les unissait a été rompue. Le Fils a porté condamnation au Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous connaissons la suite. Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. L'amour de Dieu a coûté la vie. Une souffrance infinie que nous ne saurons jamais vraiment mesurer. Alors, je ne crois pas que l'amour que nous portons vers les autres ou que nous sommes encouragés à porter nous coûte autant de peine, autant de souffrance que cela a coûté pour Jésus, n'est-ce pas ? Un homme parcourait le monde en Inde, au moins parcourait le monde, et un jour est arrivé en Inde. Et il allait de ville en village pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'était pas très éduqué, mais ce qu'il avait, il le partageait. L'amour de Dieu. Un soir, épuisé par sa marche, il arrive dans un village où il commence à prêcher l'évangile. Alors les hommes se mettent autour de lui, écoutent son discours en disant « Écoute, ce que tu dis nous embête. » Et commencent à le rudoyer, à l'insulter. Ils voulaient l'éloigner du village. Finalement, cet homme a quitté le village, mais exténué à quelques centaines de mètres de là. Il s'est couché au pied d'un arbre et s'est endormi. Fatigué par sa journée. Le matin, en se réveillant, le village était autour de lui. Alors il s'est dit, ça y est, mes derniers jours sont arrivés. Alors les hommes se sont penchés vers lui et lui ont dit, on est quand même venu voir de près quel type d'homme tu étais. Mais lorsqu'on a vu tes pieds, couverts d'ampoules, couverts de plaies, on s'est dit qu'après tout, tu devais être un saint homme pour parcourir une telle distance pour venir nous parler. Qu'est-ce qui manifeste que Dieu est dans notre vie, mes amis ? L'amour qu'on a pour les autres ou l'amour que les autres ont pour nous ? Ce qui est formidable avec le thème de l'amour, c'est qu'on peut le conjuguer à tous les temps, de toutes les formes. Mais l'amour attire l'amour. Aimer à tour attire l'amour des autres. Aimer n'est pas une mauvaise idée. Dans toutes les sphères de notre vie se pose la question de nos relations. Elles doivent se caractériser par l'amour. Et maintenant, elles ne doivent pas. Elles peuvent. Face à l'exigence, que pouvons-nous dire ? Sinon, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas prendre le temps d'aimer. Pardonne-moi de ne pas faire attention aux autres. Pardonne-moi, Seigneur, que je suis devenu sec, impénétrable, un chrétien tupperware. Vous savez, les chrétiens, les boîtes tupperware, c'est les boîtes qui prennent jamais l'eau. Ben souvent, on est des chrétiens tupperware. Hein, on est tellement étanche que l'amour de Dieu et l'amour pour les autres, il n'entre pas et il ne sort pas. Admettons notre sécheresse, mes amis. Et laissons Dieu à nouveau nous imprégner. J'ai parlé la semaine dernière d'une nouvelle espérance. Et cette nouvelle espérance, elle est tous les jours. Dieu n'a pas atteint la fin. Ayons confiance que l'amour de Dieu, son pardon pour nous, va nous aider à aimer encore mieux les autres. La Bible dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de la haine les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que l'amour est un grand sujet. C'est le sujet, Seigneur, qui nous est permis de développer en toi, parce que toi, tu es amour. Tu as créé ce monde par amour. Tu es venu dans le monde par amour. Tu as été à la croix par amour. Seigneur, ce matin, je ne sais pas pourquoi tu as mis ce texte sur mon cœur, mais c'est déjà pour ma vie personnelle. Parce que je veux approprier ce texte à ma vie. J'étais loin de toi, tu m'as permis d'entendre ta voix. Je n'avais pas ouvert la porte, tu as tapé à cette porte. Et Seigneur, si aujourd'hui nous sommes là réunis devant toi, c'est pour te demander pardon. Tu me permets d'être le berger de ce troupeau, de cette communauté. Et au nom de cette communauté, je te demande pardon. À chaque fois que nous n'aimons pas, à chaque fois que nous n'exprimons pas, à chaque fois que nous ne manifestons pas ton amour, parce que ce n'est pas digne d'être tes enfants. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à aimer. Aimer est plus difficile que de maudire. Aimer est plus difficile que de faire du mal. Mais toi, tu l'as fait pour nous. Et tu nous as dit afin que nous aussi nous le fassions. Alors je veux prier pour toute la communauté. Pour chacun, chacune assis dans cette salle. Chacun qui est peut-être blessé par le manque d'amour des autres. Qui peut-être est blessé par le manque d'amour de la communauté tout entière. Mais Seigneur, ce matin, tu veux nous réconcilier devant toi. Nous avons pris la Sainte Cène. parce que tu nous as réconciliés à la croix. Nous avons réfléchi sur ce texte de Matthieu 5 qui nous invite à nous pardonner les uns les autres, à blanchir. Et par ton sang, uniquement par ton sang, nos péchés sont purifiés. Alors ce matin, saisis ta communauté, Seigneur, et que l'amour ne soit pas une intention, une idée, quelque chose que nous connaissons tel bien, mais que nous ne pratiquons très peu, mais que ça devienne notre leitmotiv. Que tous les dons que tu pourras nous donner, Seigneur, s'ils ne sont pas manifestés dans l'amour, ne servent à rien. Alors mes amis, si ce matin nous avons parlé d'amour, si vous pensez quelque part que vous manquez d'amour, que nous n'avons pas manifesté suffisamment d'amour en votre cœur, pour vous, pour vos vies, nous vous demandons pardon. Si vous pensez que vous pourriez apporter quelque chose par contre, si ce matin vous dites, c'est vrai, j'ai tellement du mal. J'ai tellement de mal à exprimer l'amour pour les autres, à considérer le besoin des autres, à même voir le besoin des autres. Et que ce matin vous dites au Seigneur, Seigneur aide-moi. Seigneur apprends-moi. Je vous invite ce matin, là où vous êtes, vous levez la main, vous dites, Jean-Claude, j'ai du mal à voir. Que Dieu ne me donne ce collier pour libérer les yeux de mon cœur, pour que je vois comment aider les autres, pour que je vois la souffrance des autres, la solitude des autres. Y a-t-il quelques-uns qui aimeraient que je prie pour eux ce matin? J'ai vu une main, oui, je prie pour vous. Oui. Oui. Oui, Seigneur, merci parce que ton amour est quelque chose de tellement grand. Même si nous avons les moyens de le voir, nous avons parfois du mal à le mesurer. En tout cas, Seigneur, ne mets pas de limite à notre amour. Permets déjà que notre service minimum, celui d'aimer Dieu et d'aimer nos frères, soit notre leitmotiv de chaque jour. Notre désir intense. Alors Seigneur, tu vas te charger du reste. Aide ta communauté, Seigneur, à être comme toi, afin qu'un peuple nombreux te voie, et que nos amis, nos voisins, nos parents reconnaissent que nous sommes tes disciples, par ton amour. Au nom de Jésus. Amen.